Oblomov, chapitre 8. Quand Tarantiev et Alexeïev furent sortis, et que Zakhar eut fermé la porte sur eux, il ne reprit pas sa place sur le poêle. Il s'attendait à être rappelé tout de suite par le barine. Il avait entendu dire à Oblomov qu'il voulait se mettre à écrire. Mais, dans le cabinet d'Oblomov, tout était silencieux comme dans une tombe. Zakhar jeta un coup d'œil par une fente, et que vit-il ? Élie était étendu sur le sofa, la tête appuyée dans la paume de sa main. Devant lui était étalé un livre. Zakhar ouvrit la porte. « Pourquoi vous êtes-vous recouché ? » demanda-t-il. « Ne me dérange point, tu vois que je lis !» répondit brusquement Oblomov. « Il est temps de se laver et d'écrire !» dit Zakhar sans lâcher prise. « Oui, en effet, » dit Élie en revenant à lui. « Tout à l'heure, toi va-t'en, j'y penserai. » Quand diable a-t-il eu le temps de se recoucher ? Grommela Zakhar en sautant sur le poêle. « Est-il leste ?» Oblomov put cependant parcourir la page jaunie où sa lecture avait été interrompue à peu près un mois auparavant. Il remit le livre à sa place et bâilla, puis se plongea dans sa méditation opiniâtre sur les deux malheurs. « Quel ennui ! » chuchota-t-il en étendant et en ramenant ses pieds tour à tour. Il se sentait tourné à la mollesse et à la rêverie. Il levait les yeux vers le ciel, il cherchait son astre favori. Mais l'astre était à son zénith et ne versait sa lumière aveuglante que sur les murs blancs de la maison, derrière laquelle il disparaissait le soir sous les regards d'Oblomov. « Non, les affaires avant tout, » dit-il sévèrement. « Et puis, la partie du jour qu'on appelle au village la matinée était passée depuis longtemps, et ce qu'on baptise de ce nom à Pétersbourg tirait à sa fin. Le bruit mélangé des voix humaines et autres montait de la cour chez Élie. C'était le chant des artistes ambulants, souvent accompagné par l'aboiement des chiens. On était venu aussi montrer un animal marin. On apportait et on offrait sur divers tons les produits les plus variés. Élie s'étendit sur le dos et mit ses deux mains sous sa tête. Il s'occupa à retravailler son plan d'administration. Il parcourut rapidement dans son esprit quelques articles importants, capitaux sur l'obroc et sur la corvée, trouva une nouvelle mesure, plus sévère, sur la paresse et le vagabondage de ses paysans, et passa à l'arrangement de sa propre existence à la campagne. La construction d'une maison l'occupait beaucoup. Il s'arrêta donc avec plaisir, pendant quelques instants, sur la distribution des pièces. Il fixa la longueur et la largeur de la salle à manger, de la salle de billard, et le côté où seraient tournées les croisées de son cabinet. Il n'oublia même point l'ameublement et les tapis. Après cela, il disposa les ailes du bâtiment. Il considéra le nombre des visiteurs qu'il avait l'intention de recevoir, désigna l'endroit pour les écuries, les remises, les chambres des domestiques et les autres communs. Enfin, il donna son attention au jardin. Il décida qu'on respecterait les vieux tilleuls et les chênes, mais qu'on abattrait les pommiers et les poiriers et qu'on les remplacerait par des acacias. Il fut sur le point de travailler au parc. Mais, après en avoir fait le devis dans sa tête, il le trouva trop cher, le remit à une autre époque et passa au parterre et aux orangeries. Il savoura si vivement en imagination les fruits à venir qu'il se transporta à la campagne, à quelques années de là, quand sa propriété serait réformée suivant son plan et que déjà il y serait à demeure. Il se vit assis par une soirée d'été sur la terrasse, devant une table à thé, sous un dôme de verdure impénétrable au soleil, ayant à la bouche la longue chibouque dont il aspirait paresseusement la fumée, jouissant tout rêveur d'une échappée de vue, de la fraîcheur et du calme. Au loin, jaunissent les moissons. Le soleil descend derrière le bois de bouleau, si connu, et rougit l'étang poli comme une glace. La vapeur s'élève des champs. Le serein tombe, survient le crépuscule. Les paysans s'en retournent chez eux par bandes. Les domestiques oisifs se tiennent sur la porte. On entend des voix joyeuses, des rires, le son de la balalaïka, les filles courent au gorelki, autour de lui s'ébattent les marmots. Ils grimpent sur ses genoux et se pendent à son cou. Devant la bouilloire est assise la reine de tout ce qui l'entoure, sa divinité, la femme, son épouse. Et pendant ce temps, dans la salle à manger, ornée avec une simplicité artistique, commencent à briller les lumières engageantes. On couvre une grande table ronde. Zacar, promu à la dignité de majordome et orné de favoris tout à fait blancs, met la table, place avec un agréable tintement les cristaux et étale l'argenterie. Il laisse choir à chaque instant, tantôt un verre, tantôt une fourchette. On s'assied autour d'un souper abondant. Là est aussi le compagnon de son enfance, son ami toujours fidèle, Stoltz, et d'autres personnes, toutes bien connues. Ensuite, on va se coucher. Soudain, le visage d'Oblomov s'illumina de bonheur. L'illusion était si éclatante, si vive, si poétique, qu'en un clin d'œil, il tourna sa face sur le coussin. Il ressentit tout à coup un vague désir d'amour, de bonheur paisible. Il eut soif des champs et des coteaux de son village, de sa maison, de l'épouse et des enfants. Après être resté 5 minutes la face contre le coussin, il se retourna lentement sur le dos. Sa figure resplendissait d'un sentiment doux, attendrissant. Il était heureux. Il allongea ses jambes lentement et avec volupté, ce qui fit remonter un peu son pantalon, mais il ne s'aperçut même pas de ce léger désordre. L'illusion docile le transportait facilement et librement bien loin dans l'avenir. Il se plongea ensuite dans sa rêverie favorite. Il pensa à la petite colonie d'amis qui s'établirait dans les hameaux et les fermes, à 15 ou 20 verstes autour de son village. Chaque jour, ils se réuniraient les uns chez les autres pour dîner, souper, danser. Il ne voyait que des jours sereins, des figures sereines, sans soucis et sans rides, riantes, rondes, rosées, à double menton et avec un appétit toujours florissant. Il y aurait un été éternel, une joie éternelle, un ordinaire succulent et une douce paresse. « mon Dieu !» s'écria-t-il débordant de bonheur. Et il revint à lui-même. Et dans la cour retentissait un chœur à 5 fois. « Des pommes de terre, du sable, demandez du sable. Charbon, charbon, donnez, messieurs les bienfaiteurs, pour l'érection d'un temple au Seigneur. » Et dans la maison voisine, que l'on bâtissait, résonnaient les coups de hache et les cris des ouvriers. « Ah ! » soupira tout haut et amèrement Oblomov. « Quelle existence ! Quelle abomination que ce bruit de la capitale ! Quand donc viendra cet Éden tant désiré ? À quand les champs et les bocages tant aimés ? Qu'il serait bon maintenant d'être étendu sur le gazon, sous l'arbre, et de regarder à travers ses branches le doux soleil, et de compter les oiseaux qui sautillent dans ses feuilles. Et là, sur l'herbette, tantôt le dîner, tantôt le déjeuner est servi par une servante joufflue, aux bras mis, aux coudes arrondis, aux coups hâlés. Elle baisse les yeux, la friponne, et sourit. Quand donc viendra ce temps? Et le plan? Et le staroste? Et le déménagement? Lui cria soudain sa mémoire. Oui, oui, dit vivement Élie. Tout à l'heure, à l'instant. Oblomov se souleva rapidement et se mit sur son séant. Ensuite il allongea ses jambes, entra d'un coup dans ses pantoufles et resta assis. Puis se leva tout à fait et se tint debout, 2 minutes à réfléchir. « Zakhar ! Zakhar ! » cria-t-il en jetant un coup d'œil sur la table et sur l'encrier. « Qu'y a-t-il encore ?» Ces mots se confondirent dans le bruit du seau. « Comment mes jambes me portent-elles encore ?» murmura Zakhar de sa voix enrouée. « Zakhar !» répéta Oblomov pensif, sans détourner le regard de dessus la table. « Voilà ce qu'il y a, mon ami !» dit-il en montrant l'encrier. Mais il n'acheva point la phrase et retomba dans sa rêverie. Ici, il leva les bras, fléchit les genoux et commença à se détirer et à bâiller. « Il restait là, » dit-il en continuant à se détendre et en s'interrompant. « Du fromage, donne-moi du madère. Il y a encore loin d'ici au dîner, je déjeunerai un peu. » « Où en restait-il ? » demanda Zakhar. « Il ne restait rien. »« Comment il ne restait rien ? » répondit Oblomov. « Je me rappelle très bien. Il en restait un morceau gros comme ça. » « Non pas, non, il n'y en avait pas un brin !» répétait Zakhar avec entêtement. « Si !» dit Élie. « Non !» répliqua Zakhar. « Eh bien, alors achète-en. « Donnez-moi de l'argent. Prends de la monnaie, là. « Mais il n'y a qu'un rouble 40, et il faut 1 rouble 60. « Il y avait encore là des copecs. « Pas vu !» dit Zakhar en se dandinant d'un pied sur l'autre. « Il y avait des pièces d'argent, les voici, mais des copecs, il n'y en avait pas. « Si, hier le colporteur m'en a rendu à moi-même. « J'étais présent, dit Zakhar. « J'ai vu qu'il donnait de l'argent, mais je n'ai pas vu de copecs. « Serait-ce donc Tarantiev qui les aurait pris ?» se demanda Oblomov incertain. « Mais non, il aurait pris l'argent aussi. « Alors, que reste-t-il à manger ?»« Mais il n'est rien resté. « Est-ce qu'il n'y aurait pas du jambon d'hier ? On peut le demander à Anicia, » dit Zakhar. « Faut-il en apporter ? Dites. « Apporte ce qu'il y a. Mais comment se fait-il qu'il ne soit rien resté ?»« Mais comme cela qu'il n'est rien resté, » dit Zakhar, et il sortit. Tandis qu'Élie, d'un air soucieux, arpentait la chambre à pas lents. « Oui, voilà bien des embarras, » disait-il doucement. « Quand ce ne serait que le plan, que de besogne encore. Mais du fromage, il en restait, » ajouta-t-il tout pensif. « Ce Zakhar l'aura mangé, et il ose prétendre qu'il n'en est pas resté. Et où donc se sont fourrés les copecs ?» disait-il en furetant sur la table. Un quart d'heure après, Zakhar ouvrit la porte, tenant le plateau à 2 mains. En entrant dans la chambre, il voulut fermer la porte avec le pied, mais il manqua son coup et n'atteignit que le vide. Le verre dégringola, et avec lui le bouchon de la carafe et le petit pain blanc. « Tu n'en fais pas d'autre, » dit Élie. « Au moins ramasse ce que tu as laissé tomber. Mais non, il reste là en contemplation. » Zakhar, le plateau en main, voulut se baisser pour ramasser le petit pain. Mais durant cette opération, il s'aperçut que ses 2 mains étaient occupées et qu'il ne pouvait s'en servir. « Voyons, ramasse !» dit Oblomov avec ironie. « Eh bien, qu'est-ce qui t'en empêche ?»« Oh, puissiez-vous être au diable, maudit !» fit Zakhar en s'adressant avec colère aux objets tombés. « A-t-on jamais vu déjeuner juste avant le dîner ?» Et, posant le plateau, il ramassa ce qu'il avait laissé choir. Il prit le petit pain, souffla dessus et le plaça sur la table. Élie se mit à déjeuner, et Zacchar se tint à quelque distance. Il regardait son maître de côté et se disposait évidemment à dire quelque chose. Mais Oblomov déjeunait sans s'occuper de lui le moins du monde. Zacchar toussa deux fois. Élie garda le même silence. L'intendant vient encore d'envoyer tout à l'heure, commença enfin Zacchar d'une voix timide. L'entrepreneur est allé le voir. Il fait demander si on ne pourrait pas jeter un coup d'œil sur le logement, toujours à propos des changements à... Oblomov mangeait sans souffler mot. « Monsieur, » dit plus doucement Zacchar après un court silence. Élie n'eut pas l'air d'entendre. « Ils veulent qu'on déménage la semaine prochaine, » dit Zacchar encore plus bas. Oblomov avala un verre de vin sans répondre. « Que faut-il faire, monsieur ?» demanda Zacchar presque en chuchotant. « Eh, mais ne t'ai-je pas défendu de me parler de cela ?» dit sévèrement Élie, et, se levant, il s'approcha de Zacchar. Celui-ci recula. « Quel être venimeux tu fais, Zacchar ?» ajouta Oblomov d'un ton expressif. Zacchar se formalisa. « Tiens, » dit-il, « venimeux, moi, venimeux, je n'ai tué personne. »« Ah, tu n'es point venimeux, » répéta Élie. « Tu empoisonnes ma vie !»« Je ne suis point venimeux !» répéta Zacchar à son tour. « Alors, pourquoi m'ennuies-tu avec ce logement ?»« Que voulez-vous que j'y fasse ?»« Mais moi !»« Mais vous deviez écrire un mot au propriétaire !»« Eh bien, j'écrirai !»« Patiente, on ne peut pas tout faire à la fois !»« Alors, vous devriez bien écrire sur le champ !»
Sur le champ.
J'ai d'autres chats à fouetter. Tu crois donc que c'est aussi simple que de fendre du bois, que pan, pan, et c'est fait.
Vois plutôt,
dit Élie, en tournant une plume dans l'encrier à sec. Il n'y a même pas d'encre. Comment veux-tu que j'écrive?
Je vais délayer l'encre avec du couass, dit Zacchar,
et s'emparant de l'encrier, il se dirigea lestement vers l'antichambre, pendant qu'Oblomov se mit à chercher du papier.
« On dirait qu'il n'y a pas même de papier, » dit-il à part lui, en furetant dans le tiroir et en tâtant sur la table.
« Mais non, il n'y en a pas. Oh, ce Zacchar, il me rend la vie bien dure.
Soutiendras-tu encore que tu n'es pas un être venimeux ?» dit Élie à Zacchar qui rentrait.
« Tu n'as l'œil à rien. Peut-on ne pas avoir de papier chez soi ?»«
Mais qu'est-ce donc, monsieur, que ce martyr ? Moi, un chrétien, pourquoi me traitez-vous de venimeux ?
Où a-t-il encore poché ce mot-là, venimeux ? Nous sommes nés et nous avons grandi sous les yeux du vieux Barine. Il daignait même nous appeler toutou et nous tirer les oreilles. Mais jamais nous n'avons entendu un mot pareil. Il n'y avait pas de ces inventions-là dans le temps. » « Dieu sait où vous arrêterez. Tenez, monsieur, voici du papier. »
Il prit sur l'étagère et lui présenta une demi-feuille de papier gris.
« Peut-on écrire là-dessus ? » dit Oblomov en jetant le papier. « C'est avec ça que je couvre mon verre la nuit pour qu'il n'y entre pas quelque chose de... venimeux. »
Zacchar se détourna et regarda la muraille.
« Eh bien, n'importe, donne-le-moi. Je ferai le brouillon et tantôt Alexeïev le mettra au net. »
Élie s'assit à la table et écrivit rapidement.
« Monsieur, quelle encre abominable !» dit Élie. « À l'avenir, dresse l'oreille, Zacchar, et fais bien ce que tu as à faire. »
Il réfléchit quelques instants et écrivit.
« L'appartement qui est occupé par moi au deuxième étage et qui, dans vos projets, doit être arrangé, convient parfaitement à ma façon de vivre et aux habitudes que, par suite de ma longue résidence dans cette maison, j'ai contractées. Ayant appris par mon serf, Zacchar Trofimov, que vous avez ordonné de me communiquer que l'appartement que j'occupe... » Oblomov s'arrêta tout à coup, et relut ce qu'il venait d'écrire.
« C'est mauvais, » dit-il. « Il y a ici trois fois « que » de suite, et là, deux fois « qui ».
Il lut en marmottant et changea les mots de place. Il en résulta que le « qui » se rapporta à « étage ». La tournure ne valait pas mieux. Il corrigea comme il put et commença à chercher un moyen d'éviter les trois « que ». Tantôt il effaçait un mot, tantôt il en mettait un autre. Trois fois, il changea un « que » de place, mais il s'ensuivait ou un non-sens ou un trop grand rapprochement des deux « que ».
« Impossible de se débarrasser des deux autres « que », dit-il avec impatience.
« Oh, diable soit la lettre !
À quoi bon se casser la tête pour de pareilles niaiseries ? J'ai perdu l'habitude d'écrire des lettres d'affaires. Et voilà qu'il est bientôt 3 heures. Zacharie, tiens, voilà pour toi. »
Il déchira la lettre en 4 morceaux et les jeta à terre.
« As-tu vu ? » dit-il. « J'ai vu, » répondit Zacharie en ramassant les morceaux. « Donc, laisse-moi tranquille avec le déménagement. Qu'est-ce que tu as encore là ?
Et les notes, donc ?
Ah, Seigneur, tu veux m'achever ? Eh bien, combien cela fait-il ? Dépêche-toi. »
Celle du boucher est de 86,54 roubles. Élie frappa ses mains l'une contre l'autre.
Tu es fou ! Tant d'argent rien que pour le boucher ?
On ne l'a pas payé depuis 3 mois. Voilà pourquoi on lui doit tant d'argent. Tenez, c'est inscrit là-dedans. On ne vous vole pas.
Ah, et tu soutiens que tu n'es point venimeux, dit Oblomov.
Il m'achète pour 1 million de viande.
Où fourres-tu tout cela? Si encore cela te profitait.
Ce n'est pas moi qui l'ai mangé, répondit grossièrement Zacharie.
Non, ce n'est pas toi.
« Pourquoi me reprochez-vous le pain que je mange ? Tenez, regardez !» Et il lui avançait les notes.
« Ah, oh, à qui encore ?»
dit Élie, repoussant avec dépit les papiers graisseux.
« Encore 121 roubles 18 copecks au boulanger et au fruitier. »« Mais c'est la ruine ! Cela ne ressemble à rien !»
dit Élie hors de lui-même.
« Tu es donc une vache pour ruminer tant de légumes !»«
Non, je suis un être venimeux !» répliqua Zacharie avec amertume en se détournant de son maître.
« Si Miché Tarantiev ne venait pas ici, il y aurait moins de dépenses »
ajouta-t-il.
« Eh bien, combien cela fait-il en tout ?»«
Compte !» dit Élie, et il se mit à compter lui-même. Zacharie fit le calcul sur ses doigts.
« Que c'est donc bête ! Je trouve chaque fois un total différent !» dit Oblomov. « Et toi, combien trouves-tu ? 200 ?»«
Mais attendez un peu, donnez-moi le temps !» dit Zacharie en fermant les yeux et en marmottant.
« 8 dizaines et 10 dizaines, 18, et 2 dizaines... »« Ali, tu n'en finiras jamais comme cela !» dit Élie. « Va-t'en chez toi. « Présente-moi les notes demain, et aie soin qu'il y ait du papier et de l'encre. »« Quelle somme ! Je te le disais bien qu'il faut payer petit à petit. »« Mais non, ils vous fourrent tout à la fois. »« Quelle engeance !»«
205 roubles 70 et 2 copecks, » dit Zacharie après avoir compté. « Donnez l'argent, s'il vous plaît. »«
Vraiment ? Tout de suite ?» « Attends encore, je vérifierai demain. »«
Comme il vous plaira, monsieur. » »«
Il demande. » »« Allons, allons, laisse-moi tranquille. »« J'ai dit demain, et demain je paierai. »« Va chez toi, j'ai à travailler. »« J'ai des soucis bien plus graves. »
Élie s'assit commodément sur une chaise et ramena ses pieds sous lui. Mais il commençait à peine de méditer que la sonnette retentit. Parut un petit homme au ventre modeste, à la face blanche, aux joues roses, au crâne chauve, qu'entourait, à partir de la nuque, une frange de cheveux noirs et épais. La place chauve était circulaire,
propre et luisante, comme si elle avait été tournée dans l'ivoire. La physionomie du visiteur se distinguait par une attention inquiète pour tout ce qu'il voyait, par la retenue dans le regard, la modération dans le sourire. Il était modestement et officiellement convenable. Il était vêtu d'un habit commode qui, au moindre geste, s'ouvrait large et ample comme une porte cochère. Son linge reluisant de blancheur était en parfaite harmonie avec son crâne chauve. À l'index de la main droite brillait une grosse bague massive ornée d'une pierre brune.
« Docteur, par quel hasard ?» s'écria Oblomov, présentant une main au docteur et de l'autre approchant une chaise.
« Je me suis ennuyé de vous savoir toujours bien portant. Vous ne me faites pas appeler, j'ai passé moi-même, » répondit le docteur en plaisantant.
« Non, » ajouta-t-il ensuite d'un ton sérieux, « je viens de chez votre voisin d'en haut et je suis entré pour vous dire bonjour. »
« Merci. Et le voisin, comment va-t-il ?
Comment il va ?
Que vous dirais-je ? Encore 3-4 semaines ? Peut-être traînera-t-il jusqu'à l'automne. Et puis, il a déjà l'hydropisie dans la poitrine, son affaire est claire. Et vous, comment cela va-t-il ? »
Oblomov secoua tristement la tête.
« Pas bien, docteur. J'ai eu plusieurs fois... comme une velléité de vous consulter. Je ne sais que faire. L'estomac ne digère presque plus. J'ai un poids sous la cavité pectorale. J'ai le fer chaud. J'ai la respiration pénible, » dit Oblomov en prenant une mine dolente.
« Donnez-moi la main, » dit le docteur. Et il lui tâta le pouls et ferma les yeux quelques minutes.
« Et toussez-vous ? » demanda-t-il.
« La nuit, surtout quand j'ai soupé.
Avez-vous des palpitations de cœur, des maux de tête ?»
Et le docteur fit encore quelques autres questions de ce genre, puis il inclina son crâne chauve et médita profondément. 2 minutes après, il releva subitement la tête et dit d'une voix décidée, « Si vous vivez encore 2 ou 3 années sous ce climat, que vous restiez toujours couché, et si vous continuez à vous nourrir d'aliments gras et indigestes, vous mourrez d'apoplexie. »
Oblomov tressaillit. « Que dois-je donc faire ? Parlez au nom du ciel !» dit Oblomov effrayé.
« Mais ce que font les autres ? Aller à l'étranger ?»«
À l'étranger ? » répéta Oblomov abasourdi.
« Oui, eh bien, quoi ?
De grâce, docteur ! À l'étranger, est-ce possible ?
Et pourquoi serait-ce impossible ?
Élie promena silencieusement son regard sur lui-même, ensuite le long de la chambre, et répéta machinalement
« À l'étranger ! »
« Qui vous en empêche ? »
« Comment qui ? Mais tout ! »
« Quoi donc tout ? Est-ce que l'argent vous manquerait ? »
Oh, oui, oui, en effet, je manque d'argent. » dit vivement Oblomov, enchanté de ce prétexte si naturel, sous lequel il pouvait se cacher tout entier avec la tête.
« Voyez donc ce que m'écrit le staroste. Où est la lettre ? Où l'ai-je fourrée ? Zakhar ! »
« Bien, bien, » dit le docteur, « cela ne me regarde pas. Mon devoir était de vous prévenir qu'il vous faut changer de manière de vivre, de lieu, d'air, d'occupation, de tout, de tout. »
« Bien, j'y réfléchirai, » dit Oblomov. « Où faut-il aller et que dois-je faire ? » demanda-t-il.
« Allez à Kissingen ou à Hombourg, » répondit le docteur. « Vous y resterez les mois de juin et de juillet. Vous prendrez les eaux. Ensuite, vous irez en Suisse ou dans le Tyrol. Vous ferez une cure de raisin. Là, vous passerez septembre et octobre.
« Le diable sait, dans le Tyrol !» fit Élie d'une voix à peine intelligible.
« Puis il faut vous rendre sous un climat sec, en Égypte par exemple. »«
Il ne manquait plus que cela, » pensa le patient. éviter tout souci et tout chagrin.
« Cela vous est facile à dire, » répliqua Oblomov. « Vous ne recevez pas du staroste des lettres comme celle-ci. »
« Il faut aussi éviter de penser, » continuait le docteur.
« De penser ? » ?»«
Oui, toute tension d'esprit. »
« Et le plan des réformes à introduire dans ma propriété ? » ?»«
De grâce, est-ce que vous me prenez pour une bûche ?»«
Ah bien, cela vous regarde. Mon devoir est de vous prévenir. Il faut aussi se préserver des passions. Elles retardent la guérison. Il faut chercher des distractions. » Par exemple, des promenades à cheval, la danse, un exercice modéré au grand air, les conversations agréables, surtout avec le beau sexe, afin que le cœur batte légèrement et seulement par l'effet de douces sensations.
Oblomov l'écoutait, l'oreille basse.
« Ensuite ? » demanda-t-il.
« Ensuite, Dieu vous préserve de lire ou d'écrire. » « Louez une villa dont les fenêtres soient au sud, avec beaucoup de fleurs tout autour, de la musique et des femmes. »«
Et le régime ?»«
Point de viande, et en général gardez-vous de toute chair et de tout aliment farineux ou gélatineux. Vous pouvez prendre du bouillon coupé, des légumes, seulement soyez sur vos gardes. Le choléra rôde maintenant presque partout, il faut donc être très prudent. » Vous pouvez faire des promenades de 8 heures à pied dans la journée. Armez-vous d'un fusil.
« Seigneur !» gémit Oblomov.
« Enfin, » fit le docteur en concluant, « allez passer l'hiver à Paris. Et là, dans le tourbillon du monde, cherchez à vous distraire. Ne vous abandonnez pas à vos réflexions. Courez du théâtre au bal masqué. » Faites des parties de campagne, des visites, qu'il y ait toujours autour de vous des amis, du bruit, des rires.
N'y a-t-il pas encore quelque chose ?
Demanda Élie avec un dépit mal contenu. Le docteur réfléchit.
Mais on pourrait user aussi de l'air de la mer. Allez vous embarquer en Angleterre sur un pyroscaf et faites une promenade en Amérique.
Il se leva pour prendre congé.
« Si vous suivez mes prescriptions à la lettre, » dit-il.
« c'est bon, je les suivrai exactement, » répondit Oblomov d'une voix mordante en l'accompagnant.
Le docteur partit, laissant Élie dans l'état le plus pitoyable. Il ferma les yeux, mit ses deux mains sur sa tête, se pelotonna sur sa chaise et resta ainsi, sans regarder nulle part, sans rien sentir. On put entendre derrière lui un appel timide.
« Monsieur ?»«
Eh bien, » dit-il,
« que faut-il répondre à l'intendant ?»«
À quel sujet ?»«
Mais au sujet du déménagement. »«
Tu reviens encore là-dessus ?» demanda Oblomov stupéfait.
« Mais que dois-je faire, monseigneur ? Décidez-vous-même. » « Ma vie est bien assez amère sans cela. J'approche de la tombe. »«
Non, assurément, c'est toi qui veux me mener à la tombe avec ton déménagement, » dit Oblomov.
« Écoute donc ce que dit le docteur. »
Zakhar ne trouva rien à répondre. Seulement il soupira avec une telle force que les bouts de sa cravate tremblèrent sur sa poitrine.
« Tu as résolu de me faire mourir ? » demanda encore une fois Oblomov. « Je t'ennuie, hein ? Eh bien, réponds donc !»«
Que Christ soit avec vous. Vivez en bonne santé. Qui vous veut du mal ?»
grommelait Zakhar, tout à fait interdit de la tournure tragique que commençait à prendre la conversation.
« Toi ! » dit Élie, « je t'ai défendu de souffler mot du déménagement. Et il ne se passe pas 2 jours que tu me le rappelles 5 fois. Mais cela me dérange, comprends-le. « Ma santé n'est déjà pas trop bonne. »«
Je pensais, monsieur, que... »«
Pourquoi, par exemple, pensais-je, ne pas déménager ?»
fit Zakhar d'une voix altérée par l'émotion.
« Pourquoi ne pas déménager ? Tu en parles bien à ton aise !»
dit Oblomov en se retournant avec son fauteuil vers Zakhar. Mais as-tu bien saisi le sens du mot « déménager » hein ? Je suis sûre que tu ne l'as pas saisi.
« Je ne l'ai pas saisi, en vérité, » répondit Zachar humblement, prêt à convenir de tout avec le barine, pourvu que l'affaire ne tournât pas au pathétique, qui, pour lui, était plus amer que le radis noir.
« Tu n'as pas saisi, alors écoute, et ensuite examine si l'on peut déménager. » « Que veut dire déménager ? Cela veut dire « Il faut que le barine sorte » pour toute la sainte journée, et soit habillé dès le matin.
« Eh bien, pourquoi ne pas sortir ?» fit observer Zachar.
« Pourquoi ne pas s'absenter toute une journée ? Ce n'est pas sain de rester ainsi enfermé. Voyez comme vous avez mauvaise mine. Jadis, vous étiez frais, comme un jeune concombre. Et maintenant que vous êtes toujours assis, Dieu sait à quoi vous ressemblez. Vous devriez vous promener un peu dans les rues. » Voir le monde ou autre chose.
As-tu fini, moulin, sottise ? Dit Oblomov.
Écoute plutôt, se promener dans les rues.
Oui, certainement, continua Zachar avec chaleur. On dit qu'il vient d'arriver un monstre dont on n'avait jamais ouï parler.
Vous devriez aller voir ça. Vous devriez aller au spectacle, au bal masqué, et on déménagerait ici sans vous.
« Ne dis pas de bêtises. Comme tu t'inquiètes du repos de ton barine. Et s'il t'en croyait, il irait flâner toute la journée.
Qu'est-ce que cela te fait que je dîne Dieu sait où et comment, et que je ne puisse m'étendre un peu après le dîner ? Ils déménageront ainsi sans moi. On n'a qu'à ne pas les surveiller, et ils auront bientôt déménagé des débris.
Je le sais bien, » continua Oblomov avec une conviction de plus en plus profonde.
« Ce que veut dire un déménagement ? Cela veut dire bruit, meubles en pièces. Tous les objets sont entassés par terre. Ici est le porte-manteau, et le dossier du sofa, et les tableaux, et les chibouks, et les livres, et des fioles qu'on ne voit jamais, et qui sortent le diable, c'est doux. Allez tout surveiller, pour qu'on ne perde rien et qu'on ne casse pas tout. Une moitié est là, l'autre sur la charrette, ou au nouveau logement. A-t-on envie de fumer ? On prend la chibouque et le tabac n'est plus là. A-t-on envie de s'asseoir ? Pas un siège. Qu'on touche à n'importe quoi, on se salit. Tout est couvert de poussière. Et pas moyen de se laver. Et on est obligé d'aller avec des mains, tiens, comme les tiennes.
J'ai les mains propres, dit Zachar en montrant, au lieu des mains, deux vraies semelles de bottes.
Ne les montre pas, dit Élie en se détournant.
« Et veut-on boire ? » continua-t-il. « On prend la carafe, mais le verre n'est plus là. »«
On peut boire à même, » fit observer naïvement Zachar, supposant que si ce moyen était peu en usage, c'est que peut-être il n'était pas connu de tout le monde.
« Chez vous autres, c'est ainsi que tout va. On peut se passer de balayer, d'épousseter et de battre les tapis. »
« Et dans le nouvel appartement ?» continua Élie, se laissant entraîner par la vive peinture que lui fournissait son imagination. « Pendant 3 jours, on ne sait se débrouiller. Rien n'est à sa place. Les tableaux sont par terre contre la muraille, les galoches sur le lit, les bottes dans un paquet avec le thé et la pommade. Ici, on s'aperçoit qu'un pied du fauteuil est cassé. Là, le verre d'un cadre est brisé, ou le sofa est tout taché. Demande-t-on quelque chose ? Personne ne peut dire où ça est. C'est perdu, c'est oublié dans l'ancien appartement. Il faut y courir.
Oui, Ida, quelquefois il arrive bien d'y courir 10 fois, interrompit Zachar.
Tu vois, continua Oblomov, et si on se lève le matin dans le nouveau logement, quel ennui ! On n'a ni eau, ni charbon, et en hiver on gèle. Les chambres sont froides et on n'a pas apporté le bois.
« Va, cours, emprunte. »«
Et encore, Dieu sait quel voisin on aura !»
fit de nouveau observer Zachar.
« Il y en a qui, non seulement ne vous prêteraient pas une brassée de bois, mais on aurait beau les prier qu'on n'en obtiendrait pas une jatte d'eau. »«
Tu vois, » dit Élie, « a-t-on fini le soir d'emménager, il semble qu'on doive être quitte de tout tracas. »«
Non, pas. » Il y en a encore pour 15 jours. On croit que tout est à sa place, et on s'aperçoit qu'il reste toujours quelque chose à faire. Accrocher les stores, pendre les tableaux. C'est à vous faire rendre l'âme. La vie vous devient odieuse. Et les dépenses, les dépenses. La fois passée, il y a 8 ans, cela nous a coûté 200 roubles. Je me le rappelle comme si c'était aujourd'hui, dit Zakhar.
Eh bien, est-ce une bagatelle ? Dit Élie. Et comme on est mal à l'aise dans un nouvel appartement, que de temps il faut pour s'y habituer.
Mais il me serait impossible de dormir 5 nuits de suite à une nouvelle place. Je serais accablé de tristesse si en me levant j'apercevais là quelque autre enseigne que celle de l'ébéniste. Je mourrais d'ennui si, avant dîner à la croisée d'en face, je ne voyais s'avancer la tête de cette vieille aux cheveux courts. Comprends-tu maintenant à quelle extrémité tu poussais ton maître, hein ?
Demanda Élie d'un ton de reproche. Je comprends, murmura humblement Zakhar.
Pourquoi donc me proposais-tu de déménager ? Quelle force humaine pourrait y résister ?
J'avais pensé que, puisque d'autres, voyez-vous, qui nous valent bien, déménagent, que dès lors nous pouvions aussi,
dit Zakhar.
Quoi ? Quoi ?
Demanda Oblomov avec stupeur en se soulevant du fauteuil.
Qu'as-tu dit ?
Zakhar resta interdit du coup, ne sachant en quoi il avait pu provoquer l'exclamation et le geste pathétique du barine. Il se taisait.
« D'autres qui nous valent bien ?» répéta Élie avec épouvante. « Voilà où tu en es venu. Maintenant, je saurai que pour toi, je ne suis pas plus qu'un autre. »
Oblomov fit une révérence ironique à Zakhar et montra une figure extrêmement offensée.
« De grâce, monsieur, est-ce que je vous compare à qui que ce soit ?»«
Loin de mes yeux !» dit Oblomov d'un air impérieux en montrant la porte de la main.
« Je ne puis plus te voir. Ah, d'autres, c'est bien !»
Zakhar se retira chez lui avec un profond soupir.
« Quelle vie quand on y pense »
grommela-t-il en s'asseyant sur le poêle.
« Mon Dieu !» gémissait Élie de son côté. « J'avais voulu consacrer la matinée à un travail utile, et voilà qu'on m'a bouleversé pour toute la journée. Et qui donc ? Mon propre domestique. Un homme dévoué, éprouvé. Et que vient-il dire ? Comment a-t-il pu ?»
Oblomov, pendant longtemps, ne parvint pas à se calmer. Il se couchait, se levait, marchait et se recouchait. En la baissant au niveau des autres, Zakhar, à ses yeux, manquait à la déférence exceptionnelle qu'il devait à la personne du barine, à l'exclusion de tous et de chacun. Il pénétra au fond de cette comparaison et examina ce qu'étaient les autres, et ce qu'il était lui-même. À quel degré était possible et vrai ce parallèle, et combien était grave l'affront que lui avait fait Zakhar. Enfin, si Zakhar l'avait offensé en connaissance de cause, c'est-à-dire s'il était intimement convaincu qu'un autre était l'égal de M. Élie Oblomov, ou si ce mot avait échappé à sa langue sans que sa tête y fût pour rien. Ces réflexions piquèrent l'amour-propre d'Élie. Il se décida à montrer à Zakhar quelle différence il y avait entre lui et ce que comprenait Zakhar sous cette dénomination « d'autre », et de lui faire sentir toute l'horreur de son procédé. « Zakhar ! » cria-t-il d'une voix traînante et solennelle. Zakhar, à cet appel, ne sauta point en frappant des pieds, comme d'habitude. Il ne grommela point. Il se glissa lentement à bas du poêle et se mit en marche, accrochant tout des bras et des hanches, doucement, à contre-cœur, comme un chien qui, à la voix du maître, sent que son escapade est découverte et qu'on l'appelle pour que justice soit faite. Zakhar entr'ouvrit la porte, mais il ne put se décider à entrer. « Entre !» dit Élie. Quoique la porte ne fût pas malaisée, Zakhar l'ouvrit de manière à ne pouvoir y passer.
C'est pourquoi il s'arrêta dans l'entrebâillement.
Oblomov était assis sur le bord du lit.
« Viens ici !» dit-il en insistant.
Zakhar se dégagea avec peine de la porte, mais il la ferma tout de suite sur lui et s'y adossa solidement.
« Ici !» dit Élie, en montrant du doigt une place auprès de lui.
Zakhar fit un demi-pas et s'arrêta à quelques mètres de l'endroit indiqué.
« Encore !» dit Oblomov.
Zakhar eut l'air de faire un pas, mais en réalité il se balança seulement, fit du bruit avec son talon et resta en place.
Élie, voyant que cette fois il ne réussirait d'aucune façon à amener Zakhar plus près, le laissa là et le regarda pendant un certain temps en silence avec un air de reproche.
Zakhar, que gênait beaucoup cette contemplation muette de sa personne, fit mine de ne pas remarquer le barine. Plus que jamais, il se détourna et ne dirigea même point son regard sur lui. Il se mit à regarder opiniâtrement à gauche, du côté opposé. Là, il vit un objet qui lui était connu depuis longtemps, la frange de la toile d'une araignée autour du tableau, et dans l'araignée, un reproche vivant de sa négligence.
« Zakhar !» prononça Élie doucement et d'un ton plein de dignité.
Le cerf ne répondit point.
On eût dit qu'il pensait « Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Est-ce un autre Zakhar? Quoi? Est-ce que je ne suis pas ici ?»
Et il transporta son regard de gauche à droite en passant par-dessus le barine. Là aussi se trouvait, pour le rappeler à lui-même, le miroir qu'une couche de poussière couvrait comme une gaze. Dans le miroir, d'un air sauvage et en dessous, le regardait, comme dans un brouillard, sa propre face morose et laide. Il détourna son regard avec mauvaise humeur de ce triste objet qui ne lui était que trop connu, et se décida un instant à l'arrêter sur Élie. Leurs yeux se rencontrèrent.
Zakhar ne put soutenir le reproche peint dans l'œil du barine et baissa le sien à ses pieds.
Là encore, sur le tapis, imprégné de poussière et de taches, il put lire le pitoyable certificat de son zèle pour le service du maître.
« Zakhar !» répéta Oblomov avec sentiment.
« Monsieur ?» dit Zakhar à voix basse et à peine intelligible, et il frissonna légèrement, pressentant un discours pathétique.
« Donne-moi du kouass !» dit Élie.
Zakhar sentit son cœur soulagé. De joie, il se jeta lestement, comme un gamin, vers le buffet et apporta le kouass.
« Eh bien, comment te sens-tu ? » demanda Oblomov avec douceur après une gorgée et tenant le verre dans sa main.
« N'est-ce pas que tu n'es pas bien ?»
La figure sauvage de Zakhar s'attendrit sur le champ. Un rayon de repentir illumina ses traits. Le cerf sentit les premiers symptômes de sa vénération pour le barine qui se réveillait dans sa poitrine et qui gagnait son cœur. Et tout à coup, il le regarda droit dans les yeux.
« Comprends-tu ton méfait ?» demanda Élie.
« Qu'est-ce que cela veut dire, méfait ?» pensa Zakhar avec douleur.
« Ça doit être quelque chose de très lamentable. Peut-on s'empêcher de pleurer quand il commence à vous savonner ainsi ?»
« Quoi donc, monsieur ?» commença Zakhar de la note la plus basse de son diapason.
« Mais je n'ai rien dit, excepté que, voyez-vous... »«
Non, attends, » interrompit Oblomov. « As-tu compris ce que tu as fait ? Allons, pose ce verre sur la table et réponds. »
Zakhar ne répondit rien. Il ne comprenait décidément pas ce qu'il avait fait. Mais cela ne l'empêchait point de regarder le barine avec vénération. Il baissa même un peu la tête, en reconnaissance de sa faute.
« Dis encore que tu n'es pas un être venimeux !» fit Oblomov.
Zakhar se taisait toujours. Seulement, il cligna de l'œil très fort par trois fois.
« Tu as chagriné le maître !» dit Élie avec des pauses entre chaque mot,
et il regarda fixement Zachar en jouissant de son trouble. Zachar ne savait où se fourrer de malaise.
« N'est-ce pas que tu m'as chagriné ?» demanda Élie.
« Chagriné ?» dit Zachar à voix basse,
perdant tout à fait contenance à ce nouveau mot lamentable. Il tournait l'œil à droite, à gauche et droit devant lui, cherchant partout son salut. Et de nouveau, passèrent sous ses yeux et l'étoile d'araignée, et la poussière, et sa propre image, et la figure du barin.
« Si je pouvais être à 100 pieds sous terre, ah, si la mort pouvait venir !»
pensait-il. En voyant qu'il avait beau faire, il n'éviterait pas une scène pathétique. Il sentit qu'il clignotait toujours de plus en plus, et que, s'il n'y prenait garde, ses larmes allaient jaillir. Enfin, il répondit au barin avec les mots bien connus de la chanson. Seulement, il parla en prose.
« En quoi ai-je pu vous chagriner, monsieur ? »
demanda-t-il presque en pleurant.
« En quoi ? » répéta Oblomov. « Mais as-tu réfléchi à ce que c'est que d'autres ?»
Il s'interrompit, continuant à regarder Zachar.
« Faut-il te dire ce que c'est ?»
Zachar se retourna comme un ours dans sa tanière et soupira à ébranler la chambre.
« Ce que tu entends par un autre est un pauvre et misérable air, un homme grossier, sans éducation, qui vit salement, maigrement, sous les combles, ou qui se couche quelque part dans la cour sur un méchant tapis de feutre.
Qu'est-ce qui peut lui arriver à cet autre ?
Rien. Il baffre des pommes de terre et des harengs. La pauvreté le relance de ci de là et le fait courir toute la journée. Cet autre peut déménager.
Tiens, Liagaev, par exemple. Il prend sa règle sous son bras et deux chemises dans son mouchoir de poche et le voilà parti.
« Où vas-tu, s'il te plaît ?»«
Je déménage, » dit-il.
« Voilà ce que j'appelle un autre.
Et moi, à ton avis, suis-je un autre, hein ?»
Zachar jeta un coup d'œil sur le barin, se balança d'un pied sur l'autre et garda le silence.
« Qu'est-ce qu'un autre ?» continua Oblomov. « Un autre est un homme qui nettoie lui-même ses bottes et s'habille lui-même. Quoique parfois il ait l'air d'un barin, il ment, il ne sait point ce que c'est que les domestiques. Il n'a personne pour faire ses commissions. Il court lui-même chercher ce dont il a besoin. Il attise lui-même le feu dans le poêle. Quelquefois même il est poussette.
Ça doit être un Allemand, il y en a beaucoup comme ça.
Ça doit être un Allemand, il y en a beaucoup comme ça, dit Zachar d'un air sombre.
Justement, et moi, qu'en dis-tu, moi, suis-je un autre?
Vous êtes tout à fait un autre,
fit Zachar d'un ton lamentable, ne comprenant pas encore ce que voulait dire le barin.
Dieu sait qui vous souffle tout cela.
Je suis tout à fait un autre, hein?
Attends. « Vois ce que tu viens de dire. Examine un peu comment un autre vit. »«
Un autre travaille sans relâche et se met en quatre, » continua Oblomov. « S'il n'a pas travaillé, il ne mange pas. »«
Un autre salue. Un autre supplie, s'humilie. »«
Et moi, voyons, prononce-toi, qu'en penses-tu ?
Un autre, est-ce moi, hein ?»
Cessez donc, monseigneur, de me faire languir avec ces mots lamentables, dit Zachar en suppliant.
Ah, oh, Seigneur Dieu!
Moi, un autre. Mais est-ce que je me trémousse? Est-ce que je travaille? Ou bien est-ce que je me plains le manger? Suis-je maigre? Ou ai-je l'air misérable? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Il me semble que j'ai des gens pour me servir, pour me présenter ce dont j'ai besoin, grâce à Dieu. Je n'ai pas mis mes bas une seule fois depuis que je suis au monde. Est-ce que je me donnerai cette peine? Et pourquoi faire? Et à qui est-ce que je le dis? N'est-ce pas toi qui m'as soigné depuis mon enfance? Tu sais tout cela. Tu as vu que j'ai été élevée délicatement, que je n'ai jamais souffert ni du froid ni de la faim, que jamais je n'ai senti le besoin, que je n'ai jamais eu à gagner mon pain, et qu'en général, jamais je ne me suis occupée d'ouvrages de vilains. Comment dès lors as-tu pu avoir le courage de me comparer aux autres? Est-ce que j'ai une santé de fer comme ces autres? Est-ce que je puis faire et supporter tout cela? »
Zakhar perdit décidément toute faculté de comprendre le raisonnement d'Oblomov. Mais ses lèvres se gonflèrent de l'émotion intérieure. La scène pathétique grondait comme un orage sur sa tête. Il se taisait.
« Zakhar, » reprit Élie.
« Monsieur, » miaula-t-il d'une voix à peine intelligible, « donne encore du kwass. »
Zakhar apporta du kwass, et quand son maître, après avoir étanché sa soif, lui remit le verre, il voulut gagner lestement son cabinet.
« Non, 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 reste !» continua Élie. « Je te demande comment tu as pu offenser si cruellement le baril, que tu as porté enfant sur tes bras, que tu sers toute ta vie et qui te comble de bienfaits. »
Zakhar n'y put tenir. Les mots « qui te comble de bienfaits » l'achevèrent. Il se mit à clignoter de plus en plus. Moins il comprenait le discours pathétique d'Élie, plus il se sentait écrasé.
« Pardon, monsieur, » commença-t-il à siffler d'un air repentant. « C'est par bêtise, en vérité, que je... par bêtise !»
Et Zakhar, n'ayant pas conscience de ce qu'il avait fait, ne savait par quel verbe terminer sa phrase.
« Et moi, » continua Oblomov, du ton d'un homme offensé et surtout méconnu dans sa dignité. « Je travaille jour et nuit. Je me fatigue. Quelquefois la tête me brûle, mon cœur se pâme. On ne dort pas ces nuits pleines, on se retourne, on pense toujours aux moyens de faire le mieux possible. Et tout cela pour qui? Tout cela pour vous autres, pour les paysans. Pour toi donc aussi. Quand parfois tu me vois la tête plongée sous la couverture, tu crois peut-être que je suis étendu là comme une souche, que je dors. Non, je ne dors point. Je suis toujours absorbé dans un souci profond. C'est que mes paysans ne manquent jamais de nécessaire, qu'ils n'aient rien à envier aux autres, qu'ils n'aient point à pleurer contre moi devant le Seigneur Dieu au jugement dernier, mais qu'ils prient pour moi et célèbrent ma bonté après ma mort. Ingrat !
Conclut Oblomov d'un ton d'amer reproche. Zakhar fut définitivement attendri par les derniers mots lamentables. Il commença à sangloter tout bas. Le râle et le sifflement enroué se confondirent cette fois en une note que n'aurait pu donner aucun instrument, sauf peut-être le gong chinois ou le tam-tam indien.
« Mon bon seigneur, suppliait-il, finissez donc. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous chantez là? Ah, notre mère, la très sainte mère de Dieu! Quel malheur a fondu sur nous sans qu'on ait pu le prévoir. »
Et toi, continua Élie sans l'écouter, tu aurais dû avoir honte de parler ainsi. Voyez quel serpent j'ai réchauffé dans mon sein.
Serpent ! S'écria Zakhar en frappant ses mains l'une contre l'autre. Et il se mit à pleurer en bourdonnant comme si 20 hannetons étaient entrés dans la chambre. Quand donc ai-je parlé de serpent ? Disait-il à travers ses sanglots. « Mais je ne le vois seulement pas en rêve, l'impur !»
Ils ne se comprenaient plus l'un l'autre, et chacun finit par ne plus se comprendre lui-même.
« Mais comment as-tu eu le front de me parler ainsi ? » continua Oblomov.
« Et moi qui lui avais assigné dans mon plan une maison à lui, un potager, une ration de blé, moi qui lui avais fixé des gages. Tu étais chez moi intendant, majordome et chargé d'affaires. Les paysans te saluaient jusqu'à la ceinturée. Ils t'appelaient « Monsieur Zakhar » et toujours « Monsieur Zakhar ». Et monsieur n'est pas encore content, et il m'a promu à la dignité des autres. Voilà ma récompense, et comme il honore le baril. »
Zakhar poussait des sanglots convulsifs, et Élie lui-même était ému. En sermonnant Zakhar, il s'était profondément pénétré de la conviction qu'il comblait ses paysans de bienfaits, et les derniers reproches, il les fit d'une voix tremblante et les larmes aux yeux.
« Maintenant, tu peux aller en paix, » dit-il à Zakhar d'un air réconcilié.
Mais attends, donne-moi encore du couas. Mon gosier est à sec.
Tu aurais dû le deviner. N'entendais-tu pas que la voix du barine était voilée?
Vois où tu l'as poussée.
J'imagine que tu as senti ton méfait,
dit Élie, quand Zacar lui servit du couas, et qu'à l'avenir tu ne te permettras plus de comparer le barine à d'autres.
Si tu veux effacer ton offense, arrange-toi comme tu l'entendras avec le propriétaire pour que je n'aie pas à déménager.
C'est donc ainsi que tu soignes le repos du barine.
Tu l'as tout désorienté, et peut-être l'as-tu privé d'une idée neuve, utile.
Et qui en as-tu privé?
Toi-même. C'est à vous autres que je me suis voué entièrement. C'est pour vous que j'ai donné ma démission, que je m'enferme.
Mais que Dieu te pardonne.
Entends-tu?
3 heures qui sonnent.
Il n'en reste plus que 2 jusqu'au dîner.
Que peut-on faire en 2 heures?
Rien, et j'ai un tas d'affaires.
Ma foi, tant pis. La lettre attendra le prochain courrier.
Quant au plan, je l'esquisserai demain.
Maintenant, je vais me coucher un peu. Je suis tout à fait accablée.
Baisse les stores et enferme-moi bien pour qu'on ne me dérange point.
Peut-être dormirai-je une petite heure, et à 4h30 tu me réveilleras.
Zacar se mit en devoir de calfeutrer le barine dans sa chambre. Avant tout, il le couvrit lui-même et borda sous lui la couverture. Ensuite, il descendit les stores, ferma hermétiquement toutes les portes et se retira chez lui.
« Puisses-tu crever, sacré satyre ? »
grommela-t-il en essuyant les traces de ses larmes et en grimpant sur le poêle.
« Oui, satyre, une maison à soi, un potager, dégage !»
disait Zacar, qui n'avait compris que les derniers mots.
« Tu n'es bon qu'à dire des paroles lamentables. C'est comme s'il vous sciait le cœur avec un couteau. Voilà ma maison et mon potager, et c'est ici que j'allongerai mes pattes. »
disait-il avec fureur en frappant sur le poêle.
« Dégage ! Si l'on avait soin de ramasser les copecs et les grivniques, on n'aurait pas de quoi acheter du tabac et régaler sa commère.
Grémil, quand on y pense, et la mort qui ne vient pas !»
Élie se coucha sur le dos, mais ne s'endormit pas tout de suite. Il songeait, il s'agitait.
Deux malheurs d'un coup,
dit-il en s'enveloppant tout à fait la tête dans la couverture.
Comment y tenir?
Mais, dans le fait, ces deux malheurs, c'est-à-dire la lettre sinistre du staroste et le déménagement, commençaient à ne plus troubler Oblomov et à se ranger seulement parmi les souvenirs désagréables.
Il y a encore loin jusqu'au désastre dont le staroste me menace,
se disait-il.
D'ici là, beaucoup d'eau coulera à la rivière. Espérons que les pluies vont améliorer la récolte. Peut-être le staroste recouvrera les arriérés. Les paysans fugitifs seront réintégrés à domicile, comme il dit.
Et où ont-ils pu se réfugier, ces paysans?
Se demanda-t-il. Et son imagination se représenta le côté pittoresque de la situation.
Allez donc voir, ils se sont sans doute enfuis la nuit, par un temps humide, sans pain. Où dormiront-ils? Se pourrait-il que ce fût dans les bois? Pourquoi ne restent-ils pas chez eux?
Il est vrai que l'air de l'isba est infect,
mais au moins il y fait chaud.
De quoi s'inquiète-t-il?
Bientôt le plan sera mûr.
Pourquoi s'effraie-t-il avant le temps? Car enfin, je...
Le déménagement le tracassait davantage. C'était un malheur plus récent, postérieur. Mais son esprit conciliant le rangeait déjà dans le domaine de l'histoire. Quoiqu'il prévît confusément que le déménagement serait d'autant plus inévitable que Tarantiev s'en mêlait, il renvoyait en idée à une semaine cet événement inquiétant. Il y gagnait 8 jours de repos.
Et peut-être Zacar aura-t-il assez d'adresse pour s'arranger de manière qu'on ne sera même pas forcé de déménager.
Espérons que nous l'éviterons, qu'on remettra la reconstruction à l'été prochain, ou qu'on abandonnera tout à fait cette idée. En un mot, on prendra d'autres mesures.
On ne peut cependant pas déménager. »
C'est ainsi que tour à tour ils s'agitaient et se calmaient. Et enfin, dans ces mots conciliateurs et tranquillisants, « peut-être, espérons, de manière ou d'autre », Oblomov trouva cette fois, comme toujours, une arche d'espérance et de consolation, semblable à l'arche d'alliance de nos pères. Et pour le moment, il réussit à se garantir des deux malheurs. Déjà, un léger et agréable engourdissement parcourait ses membres et commençait à couvrir ses yeux d'un brouillard imperceptible, comme les premières et timides gelées couvrent de vapeur la surface des eaux. Encore un instant, et la conscience de lui-même allait s'envoler, Dieu sait tout. Quand tout à coup, Élie reprit ses esprits et rouvrit les yeux.
« Mais je ne me suis pas lavé. Comment cela se fait-il? Je n'ai même rien fait !»
murmura-t-il. « Je voulais mettre mon plan sur le papier, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas écrit à l'Ispravnik, pas plus qu'au gouverneur. J'ai commencé une lettre au propriétaire de la maison, et je ne l'ai pas terminée. Je n'ai pas vérifié les notes, et je n'ai pas donné l'argent. Voilà comme j'ai perdu ma matinée !» Il se prit à réfléchir. D'où cela vient-il? Et un autre aurait fait tout cela? Cette réflexion passa rapidement dans sa tête. Un autre. Qu'est-ce donc qu'un autre? Il approfondit la comparaison de lui-même avec un autre. Il commença à songer, et parvint à se former, d'un autre, une idée tout à fait opposée à celle qu'il avait donnée à Zachar. Il dut convenir qu'un autre aurait eu le temps d'écrire toutes les lettres, en évitant la répétition malencontreuse des « qui » et des « que ». Un autre aurait déménagé, aurait achevé le plan, et serait allé à la campagne.
« Mais moi aussi j'aurais pu faire tout cela, » pensa-t-il. « Est-ce que je ne sais pas écrire aussi? Il m'arrivait dans le temps d'écrire, non pas seulement des lettres, mais des choses plus difficiles. Comment ai-je perdu ce pouvoir ? Et qu'y a-t-il de si pénible à déménager? Il suffit de vouloir. Un autre ne met jamais de calate. »
Ce trait vint s'ajouter au caractère d'un autre. Un autre. Ici, il bâilla.
Ne dort presque pas. Un autre jouit de la vie, va partout, voit tout et se mêle à tout. Et moi, je ne suis pas un autre,
dit-il avec un commencement de mélancolie et en se plongeant dans une profonde méditation. Il dégagea même sa tête de dessous la couverture. Ce fut un de ces moments lucides dans sa vie où Oblomov fut sincère avec lui-même. Quel effroi le saisit, quand soudain dans son âme s'éleva l'image vive et nette du sort et de la destination de l'homme, et quand s'éclaira d'une rapide lumière le parallèle entre cette destination et sa propre existence, quand se réveillèrent dans sa tête une à une diverses questions vitales qui partaient de côté et d'autre en désordre, effarouchés comme des oiseaux réveillés dans des ruines par un subit rayon de soleil. Il se sentit triste et chagrin de son peu de développement intellectuel, de cet arrêt dans sa croissance morale, de sa malencontreuse apathie. Et il se prit à envier les autres qui vivaient si pleinement et si largement, tandis que lui, un lourd rocher semblait avoir roulé sur l'étroit et misérable sentier de son existence. Dans son âme inquiète, s'est manifestée la douloureuse conviction que beaucoup de ses facultés sont restées endormies, que d'autres se sont à peine éveillées et qu'aucune n'a été définitivement mise en activité. Et cependant, il s'aperçoit avec déchirement qu'en lui gît, comme dans une tombe, un principe bon et pur, mort peut-être, ou semblable alors enfoui au sein de la montagne et qui devrait depuis longtemps être converti en monnaie courante. Mais le trésor était recouvert d'une couche lourde et profonde d'alluvions et de mauvais détritus. On eût dit que quelqu'un lui avait dérobé, pour les enterrer au fond de son âme, tous les biens dont l'avait gratifié le monde et la vie. Quelque chose l'avait empêché de se lancer résolument sur la mer et d'y courir sous les voiles déployées de l'intelligence et de la volonté. Un ennemi mystérieux avait appesanti sa main sur lui dès le début de son voyage et l'avait rejeté loin de la vraie destination de l'homme. Et il semble qu'il n'ait plus la force de sortir du bois sauvage pour regagner le vrai sentier. La forêt l'entoure de toutes parts et tout dans son âme devient plus épais et plus obscur. Les broussailles lui dérobent de plus en plus le sentier. La conscience nette de lui-même s'éveille de plus en plus rare et ne ranime que pour un moment ses forces engourdies. L'intelligence et la volonté sont depuis longtemps paralysées et, tout le fait croire, paralysées sans retour. Les événements de sa vie se sont amoindris jusqu'à prendre des proportions microscopiques et ces événements même, il ne peut les dominer. Il ne passe pas de celui-ci à celui-là, mais il est par eux ballotté comme d'une vague à l'autre. Il n'a plus la force d'opposer à l'un d'eux le ressort de sa volonté, ou de se laisser aller avec prudence à l'impulsion d'un autre. Il ressentit une vive amertume de cette secrète confession qu'il se faisait à lui-même. Les regrets stériles du passé, les remords brûlants de sa conscience, le poignait comme des épines, et il réunit toutes ses forces pour jeter à bas le fardeau de ses reproches, trouver un autre coupable et retourner leurs aiguillons contre celui-là. Mais qui ? C'est Zacar, dit-il à voix basse. Il se retraça les détails de la scène avec Zacar, et sa figure rougit de la flamme de la honte. « Si quelqu'un par hasard m'avait entendu » pensait-il terrifié par cette idée. Dieu merci, Zacar ne saurait redire à personne, et on ne le croirait pas, Dieu soit loué. Il soupirait, il se maudissait, se retournait dans son lit, cherchait le coupable et ne pouvait le trouver. C'est « oh !» c'est « ah !» et ses soupirs parvinrent même à l'oreille de Zacar. « Hé, comme le coisse le gonfle là-bas !» grognait Zacar en colère. « Pourquoi donc suis-je ainsi ?» se demanda Oblomov presque en pleurant. Et de nouveau, il cacha sa tête sous la couverture. « Pourquoi ?» Après avoir cherché inutilement la source du mal qui l'empêchait de vivre comme on doit le faire, comme vivent les autres, il soupira, ferma les yeux, et au bout de quelques minutes, il sentit ses membres enchaînés peu à peu par l'assoupissement. « Et moi aussi, j'aurais voulu, » disait-il, rouvrant les yeux avec peine, « faire quelque chose comme cela. La nature m'aurait-elle maltraité à ce point? Mais non, Dieu merci, je n'ai pas à me plaindre. » Après quoi, on put entendre un soupir de soulagement. Oblomov venait de passer de l'agitation à son état ordinaire de quiétude et d'apathie. « Probablement, tel est mon sort. Qui puis-je » balbutia-t-il à peine, vaincu par le sommeil. « Quelque chose comme 2000 de revenus en moins, » dit-il tout à coup à haute voix en rêvant. « Tout de suite !» « Tout de suite, attends !» Et il se réveilla à demi. Cependant, il serait curieux de savoir pourquoi je suis comme cela, reprit-il en baissant la voix. Les yeux d'Oblomov se fermèrent tout à fait. « Oui, pourquoi ? » dit-il. « Probablement, c'est parce que... » Il voulut, mais ne put prononcer les derniers mots. C'est ainsi qu'il ne parvint pas à approfondir les causes. Sa langue et ses lèvres s'engourdirent soudain sur la moitié du mot,
et restèrent, comme elles étaient, à demi ouvertes. Au lieu du mot, on put entendre encore un soupir, et aussitôt après, retentit le ronflement cadencé d'un homme dormant sans souci. Le sommeil arrêta le cours lent et paresseux de ses pensées, et tout à coup, le reporta à une autre époque, auprès d'autres personnes, dans un autre pays, où nous le suivrons avec notre lecteur dans le chapitre suivant.